Béni soit le Seigneur, nous sommes heureux d'ouvrir encore la parole du Seigneur et je veux saluer aussi tous ceux qui nous rejoignent par la vidéo ou par la télévision. Et nous poursuivons cet après-midi notre série de messages intitulée « Dans l'empreinte des patriarches ». La semaine dernière, rappelez-vous, nous avions retrouvé Abraham sous ses tamaris et nous l'avions suivi sur le chemin qui l'a conduit jusque au mont Morija, là où le Seigneur lui avait donné un rendez-vous particulier. Cet après-midi, nous allons passer quelques instants avec Isaac. Un Isaac déjà bien avancé en âge. Et à travers lui, nous allons nous arrêter sur l'influence de nos sens sur notre propre vie spirituelle. Nous allons lire dans Genèse au chapitre 27, du verset 1er jusqu'au verset 4, Genèse 27, 1 à 4. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit : Mon fils ! Et il lui répondit : Me voici. Isaac dit : Voici donc, je suis vieux et je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois, ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. J'ai donné ce titre à un des points de ce message, mais ça pourrait être le titre même de ce message, le goût de la viande. Le goût de la viande. Alors, je ne sais pas si vous aimez la viande ou si vous êtes végétarien, peu importe. Mais bien sûr, au-delà de la viande, c'est l'influence de nos sens. Le sujet qui va nous intéresser cet après-midi. Isaac, au moment où nous le retrouvons, est un homme déjà bien âgé. D'après les indices que nous donne la Bible, nous pouvons estimer qu'il avait à l'époque à peu près une bonne centaine d'années. C'est déjà bien. Et lui-même trouvait qu'il devenait vieux. D'ailleurs, ses yeux s'étaient affaiblis. Pour nous, nous disons qu'il n'y a rien là d'anormal. Un homme qui a déjà franchi la centaine d'années, eh bien, nous comprenons que son corps s'affaiblisse et que sa vue se détériore. Mais si nous replaçons cela dans son époque, dans l'époque des patriarches, il faut quand même s'interroger sur un certain déclin, un déclin assez rapide, voire même étonnant d'Isaac. Si nous le comparons avec ceux qui l'ont précédé ou qui l'ont suivi, c'est encore plus frappant. Parce qu'à l'époque précédente, du temps d'Abraham, à peu près au même âge, à 100 ans, c'est à cet âge-là qu'Abraham a eu un enfant, Isaac. Quant à Jacob, bien plus âgé encore qu'Isaac, à l'âge de 130 ans, il est descendu en Égypte. Il avait donc encore de la vigueur pour faire ce grand déplacement. Il est étonnant de voir que cet homme, Isaac, est autant décliné que ça, au point de dire même qu'il allait mourir. Et en fait, nous nous rendons compte qu'il va exagérer les choses. Et c'est pour cela que c'est étonnant. Parce que la parole qu'il prononce sur sa vie, « je vais mourir », est forte, et puis surtout exagérée. Car savez-vous quand est-ce que Isaac va mourir ? Nous sommes ici dans Genèse 27, mais il ne va mourir que bien plus tard, dans Genèse 35. Et entre tous ces chapitres, il y a tout le temps où Jacob va partir dans le pays de Laban, où il va revenir de chez Laban, où il va passer de nombreuses années dans le pays de Canaan. Et d'après les estimations qu'on peut en faire, entre Genèse 27 et Genèse 37, il y a à peu près 70 à 80 ans. Alors on s'est dit, mais qu'est-il arrivé à Isaac ? Qu'est-ce qui lui est donc passé par la tête pour dire avec plus de 70 ans d'avance qu'il allait mourir ? C'est étonnant. Encore quand on le compare à ceux qui l'ont précédé ou qui le suivent comme nous l'avons fait, parce que la vie d'Isaac fut tranquille. Il n'a pas eu besoin de voyager comme son père l'avait fait. Oh, un jour, certes, il est descendu en Égypte, mais ça a été à peu près le seul long voyage qu'il ait fait. Si on compare avec Jacob, la vie d'Isaac a été tranquille. Jacob, quelle vie ! Quelle vie ! À travailler nuit et jour chez son oncle, exploité, etc. Les souffrances qu'il a souffert, qu'il a supportées avec la perte de Joseph notamment, mais la vie d'Isaac a été tranquille. Et nous découvrons même que c'est lui qui a le vécu le plus longtemps. Son père Abraham est mort à 175 ans. Et son fils Jacob, la Bible nous dit qu'il est mort à plus de 147 ans. Alors qu'est-ce qui est donc passé par la tête d'Isaac pour qu'un jour il en arrive à dire « je vais mourir » ? Eh bien, il est possible qu'un jour Isaac ait fini par céder à ses perceptions physiques. Il a cédé à l'influence de ses sens. Ses yeux lui disaient « je ne vois plus » et il s'est dit « je suis vieux, c'est fini ». Mais à cause de cela, il y a eu des répercussions. Parce que sous l'influence de ses sens, il en est arrivé à prendre de mauvaises décisions. Des décisions qui ont eu un impact dans toute sa famille. Parce que ce n'étaient plus des décisions conduites par l'esprit, mais des décisions conduites par ses sens. Et peut-être encore plus important, les décisions qu'Isaac a prises l'ont amené à la fin de sa carrière spirituelle. Il a précipité, par de mauvaises réactions, la fin de sa carrière spirituelle avec Dieu. Et donc, mon premier point, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le goût de la viande. Quand nos sens dominent, ils affectent sérieusement notre perception spirituelle. Et Isaac s'est laissé déborder par ses sens. Ses yeux étaient en train de s'éteindre, c'est vrai, mais il y avait encore des sens qui étaient forts, et notamment celui du goût. Mais alors que ses yeux s'éteignaient, il nous faut reconnaître que c'était aussi ses yeux spirituels qui étaient en train de se fermer. Quelle parole quand même de dire un jour, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort, tout peut s'arrêter maintenant, pas d'avenir pour moi. D'un certain côté, nous pouvons reconnaître que le déclin physique est acceptable. Tous les hommes ne sont pas Moïse, capables au dernier jour de leur vie de monter sur la montagne en pleine forme, avec une vision 10 sur 10, une ouïe 10 sur 10, et emmenés ensuite par le Seigneur d'une manière assez mystérieuse. Les hommes déclinent, nous le savons. Mais le souci, c'est quand cette espèce de déclin physique provoque un déclin moral et surtout un déclin spirituel. Et à cause de l'influence de ses sens, à cause de l'influence des choses qu'il percevait, Isaac est devenu un homme sensuel. Un homme conduit par l'influence de ses sens. Certains étaient en déclin, ils voyaient de moins en moins, mais par contre certains étaient toujours alertes, il avait du goût. S'il est bien un sens qui a peu de qualité spirituelle, c'est le goût. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, Isaac voyait de moins en moins, mais par contre il continuait de savourer. Et il aimait la viande. Il aimait le gibier. Et il s'est dit, comme je ne connais pas le jour de ma mort et que cette mort peut venir rapidement, je vais appeler mon fils. Lui, c'est un bon chasseur et il va me préparer un plat dont mes papilles sont en train déjà de saliver. Alors il appelle Ésaü et il lui demande cette pièce de viande. Bon, il n'y a rien de mal en soi, mais il y a quelque chose qui me gêne dans ce qu'il va dire. Regardez à la fin du verset 4, « Apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » L'idée de cette mort imminente qui était dictée par son affaiblissement physique va le pousser à associer, voire même à conditionner la transmission de la bénédiction à la préparation d'un plat. Prépare-moi ce morceau de viande et je te bénirai. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour ma part, je vois ici comme une évidence d'un déclin spirituel. Cet homme était embourbé dans ses sens. Et il y avait un déclin spirituel. Et quelque part, si on le compare à son fils Ésaü, il y a quand même des points de rapprochement. Dans Genèse 25, vous vous rappelez Ésaü ? Il revient des champs. Qu'est-ce qu'il dit à son frère ? Voici, je m'en vais mourir. Tiens, ça nous rappelle quelque chose. Je m'en vais mourir, alors échange-moi, non pas une pièce de viande, mais échange-moi ces lentilles contre mon droit d'aînesse. Je ne sais pas s'il faut dire tel père, tel fils, ou tel fils, tel père. Mais il y a quand même quelque chose qui unit ces deux hommes. Il y a une espèce de mentalité qui est là. Mais alors j'en arrive à me dire que ce qui est pitoyable de la part d'Ésaü, et la Bible dit que Ésaü méprisa le droit d'aînesse et qu'il fut rejeté de Dieu à cause de cela, eh bien si la Bible dit cela d'Ésaü, est-ce que nous ne pouvons pas nous interroger quant à Isaac ? Si Ésaü a méprisé le droit d'aînesse, je m'interroge sur le fait de dire que est-ce qu'Isaac n'aurait pas galvaudé la bénédiction de Dieu pour une pièce de viande ? En tout cas, la conclusion est la même pour l'un comme pour l'autre. Parce qu'à cause de cela, Ésaü a été rejeté. Et quand il revient vers son père, la Bible dit dans Hébreux 11, quand il revient même avec des larmes, c'était trop tard. Mais nous allons voir aussi que ça sera trop tard pour Isaac. Qu'à cause de cette façon de faire, eh bien sa carrière spirituelle va s'arrêter. Alors nous en arrivons maintenant à cette fameuse bénédiction usurpée. Vous vous rappelez Rebecca, Jacob, car la maman avait laissé traîner son oreille. Et si le papa avait une affection pour Ésaü, le fils aîné, la maman, elle, avait de l'affection pour le cadet, Jacob. Et elle n'entendait pas les choses du même point de vue que son mari. Alors elle est allée trouver son fils. Hein, tu vas te faire passer pour ton frère. On va arranger les choses parce que lui est plein de poils et toi tu es un berbe. Donc on va prendre une peau d'un animal. Tu vas lui ressembler. Tu vas prendre ses vêtements. Et moi je vais préparer une pièce de viande et tu vas lui apporter tout ça. Et tu vas aller chercher la bénédiction auprès de ton père. Et c'est ainsi qu'ils vont faire. Et donc Jacob s'en va retrouver son père ainsi déguisé et avec son plat entre les mains. Et quand je vous disais tout à l'heure que Isaac était un homme de plus en plus dominé par ses sens, peut-être la vue que ça baissait, mais en tout cas le goût était là, nous voyons à partir du verset 22 que tout d'abord l'ouïe d'Isaac fonctionnait bien encore, puisqu'il va reconnaître non pas la voix d'Ésaü, la voix de Jacob. Il parle, mais ce n'est pas Ésaü. C'est bien la voix de Jacob. Alors son ouïe fonctionne bien. Mais comme ses yeux ne fonctionnent pas, viens, approche-toi. Il veut toucher, pour être certain. Le toucher fonctionne bien. Il a encore bien la sensibilité dans les mains. Il va prendre en fait ses poils de chèvre, ou je ne sais pas quoi, pour les poils de son fils. Ses mains sont velues. L'ouïe, le goût donc, le toucher et même l'odorat. Nous lisons au verset 27 que Jacob s'approcha, l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis le bénit et dit « Voici l'odeur de mon fils, c'est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. » Isaac fonctionne d'après ses sens. Mais je me pose la question, où est la foi ? Où est la foi ? Il a entendu, il a touché, il a senti. Et parce qu'il a senti cette odeur de la terre qui sort des vêtements de son fils, alors il va vouloir le bénir. Et c'est vrai que vient la bénédiction, verset 28, que Dieu te donne de la rosée du ciel, de la graisse de la terre, du blé, du vin en abondance, que des peuples te soient soumis, des nations se prosternent devant toi, sois le maître de tes frères, que les fils de ta mère se prosternent devant toi, maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Voilà la bénédiction d'Isaac sur Jacob. Mais je m'interroge beaucoup sur cette bénédiction. Et notamment de savoir comment un homme dans cette situation où il est dominé, influencé par ses sens, comment un tel homme pouvait-il transmettre quelque chose de la part de Dieu ? Comment pouvait-il transmettre quelque chose marqué par l'Esprit de Dieu alors qu'il était dominé par ses sens ? Ce qui m'amène aussi à me poser la question quant à la valeur même de cette bénédiction qu'Isaac donne à son fils Jacob. Et en lisant ces quelques versets, ces quelques paroles, je cherche véritablement le souffle de Dieu. Je cherche là l'inspiration du Saint-Esprit. Et je vous le dis tel que je le ressens, j'ai du mal à trouver dans ces versets, dans cette parole de Jacob, d'Isaac à Jacob, l'inspiration de Dieu, la portée prophétique. J'y vois quelques paroles de bénédiction matérielle. J'y vois aussi quelques paroles tirées même de ce que Dieu avait dit à Abraham. Maudit soit quiconque te bénira, béni soit quiconque te bénira. Mais je ne trouve pas là l'inspiration du Saint-Esprit. Si je me souviens, si vous vous souvenez ou vous relirez dans Genèse 49, la manière dont son fils Jacob bénira plus tard ses fils, c'est extraordinaire. La manière dont Jacob va prophétiser sur Judas, annonçant le Messie à venir, le Shiloh, la manière dont il va prophétiser sur Joseph, sur Issachar, sur ses fils, là il y a vraiment une inspiration de Dieu, un souffle prophétique. Mais dans ces quelques paroles, je me suis toujours interrogé, Seigneur, où est ton inspiration ? Où est ton inspiration ? Alors, je vous donne ma conclusion encore une fois, non, je ne vois pas dans cette bénédiction-là, l'inspiration de Dieu, le souffle de Dieu, le souffle de la prophétie. Et je veux encore vous le prouver. D'abord, pour moi, Dieu n'aurait pas permis que la bénédiction d'Abraham soit transmise sous le coup d'une folle impulsion. Isaac avait dit, je vais mourir, et Ésaü, prépare-moi une pièce de viande et je te bénirai. Je dis, Seigneur, ce n'est pas possible que ce qui est pur, ce qui est saint, ce qui est divin, ce qui est prophétique, soit donné à travers une espèce de marchandage. Et en même temps, je ne vois pas comment Dieu aurait permis que Jacob, celui qu'il aime, il a haï Ésaü, il a aimé Jacob, disent les prophètes. Comment Jacob, celui qu'il aime, aurait-il pu s'emparer de la bénédiction de Dieu dans ces circonstances ? Alors n'imaginez pas, ne pensez pas que je sois en train de chercher à accabler Isaac et à décharger Jacob. Mais mon point de vue, c'est que Dieu n'est pas présent dans leurs affaires. Dieu n'est pas présent dans toute cette histoire que nous venons de lire ou que vous connaissez. Dieu n'a pas participé à leur stratagème, à leur manigance, à tout ce qu'ils ont mis en place. Dieu n'était pas là-dedans. Toutefois, je resterai un peu indulgent à l'égard de Jacob, alors que souvent on charge Jacob en disant c'est l'usurpateur, c'est le supplanteur. Mais je veux être un peu indulgent à l'égard de Jacob, parce qu'après tout, ce n'est pas lui qui a déclenché ces choses. Mais c'est le coup de folie de son père. C'est la folie d'Isaac, dominée par ses sens, qui va provoquer cette réaction en chaîne. Alors donc, Isaac, se méprenant sur le compte de Jacob, va le bénir. Seulement, il y en a un qui était à la chasse et qui revient de la chasse. Il a trouvé son gibier, il l'a abattu et il l'a préparé. Et il arrive, c'est Ésaü. Et nous lisons ceci au verset 33. Après que Ésaü lui dit, je suis ton fils aîné, Ésaü, Isaac fut saisi d'une violente émotion. Quand il a compris ce qui venait de se passer, il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de cet homme. En un instant, Cet homme qui était comme mourant s'est ressaisi. Et il a pu mesurer en un instant l'étendue des dégâts. Ce que ces réactions occasionnées par la chair ont provoqué. Il comprend, la bénédiction a été donnée à Jacob. Il ne peut pas changer cela, mais il comprend que dans le cœur de son fils Ésaü, il y a maintenant de la haine. Il y a de la haine à la mort entre ses deux fils à cause de ce qu'il a fait. Il se reprend, mais le mal est fait. Son goût pour la viande ont provoqué la haine au sein de sa famille. Et nous voyons qu'il est écrit que, en quelque sorte, Ésaü ruminait sa vengeance et il se disait « Bientôt, mon père va mourir et on va régler les choses entre nous deux. » La maman Rebecca, qui a encore l'oreille bien portante, va percevoir la réaction de son fils. Et c'est là qu'elle va vouloir que Jacob s'en aille. Avant de partir, Jacob va aller retrouver son père. Il va y avoir une deuxième et dernière rencontre. Mais celle-ci va être complètement différente. Parce qu'Isaac, à ce moment-là, n'est plus un homme dominé par ses sens et par le goût de la viande, mais c'est un homme qui a repris une connexion spirituelle avec Dieu. Il a fallu ce moment terrible, cette émotion violente, pour qu'il se ressaisisse et qu'il comprenne que la situation dans laquelle il se trouvait avait presque détruit sa famille, mais maintenant, il pouvait reprendre les choses en main. Et nous voyons un autre texte, au début du chapitre 28. Je vais le lire rapidement parce que nous allons voir qu'il est d'une toute autre portée. Genèse 28, Isaac appela Jacob et il le bénit. Et il lui donna cet ordre, « Tu ne pendras pas une femme parmi les filles de Canaan, lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond, te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi, à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger. Et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel. » Et là, pour moi, il y a un grand changement. Percevez-vous la différence entre les premières paroles d'Isaac dans Genèse 27 et ces nouvelles paroles ici dans Genèse 28? Sentez-vous le souffle de l'inspiration, le souffle de l'esprit? Quelle est la grande différence entre ces deux chapitres? Je vous ai dit dans le chapitre 27, si on doit le résumer, nous voyons des stratagèmes, nous voyons des conditions, nous voyons une usurpation et nous ne voyons pas Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un mélange entre ce qui est charnel et spirituel. Mais ici, dans Genèse 28, nous voyons l'Esprit de Dieu. Nous voyons Isaac de nouveau animé du souffle de Dieu. Nous voyons des choses simples, des choses vraies. Isaac a appelé Jacob et il l'a béni. Il n'y avait pas de condition. Il ne l'a pas béni s'il allait lui apporter quelque chose, mais il l'a béni parce qu'il était poussé par l'Esprit du Seigneur. Il y avait là la reconnaissance du choix divin. Isaac n'était pas l'aîné, pardon, Jacob n'était pas l'aîné, il était le second, mais Dieu avait choisi Jacob. Je me rappelle que plus tard, à la fin de sa vie, Joseph amènera ses deux fils, Éphraïm et Manassé, pour que Jacob les bénisse, Manassé est l'aîné, Éphraïm le second. Alors Joseph met sur le genou droit Manassé l'aîné et il met Éphraïm sur le genou gauche de son père, le second Éphraïm. Mais voilà que Jacob, conduit par l'Esprit du Seigneur, va mettre sa main droite sur la tête d'Éphraïm le second et il mettra sa main gauche sur la tête de Manassé le premier. Joseph lui dira « mais c'est pas ça ». Mais il dira « c'est ce que Dieu a voulu ». C'était le choix de Dieu. Isaac n'était plus dans l'esprit lorsqu'il voulait bénir Ésaü parce que ce n'était pas le choix de Dieu. Qu'est-ce que nous voyons dans les paroles d'Isaac ? Tout d'abord, une référence à son père. Il ordonne à Jacob, c'est un ordre. Il lui ordonne de partir dans le pays de sa mère, le pays d'Aram, et d'aller trouver une femme là-bas, de prendre une femme, non pas chez les Cananéens, là où ils habitaient, comme son frère Ésaü l'avait fait, mais d'aller prendre une femme dans la famille de sa mère. Et ça nous rappelle Genèse 24, lorsqu'Abraham a envoyé son serviteur pour qu'il aille là, dans la maison de Bethuel, pour aller chercher la jeune fille, la jeune femme que Dieu avait réservée pour Isaac. Et nous connaissons l'histoire de Rebecca à la source. Les choses ne seront pas aussi simples pour Jacob, c'est vrai. Ce n'est pas une qui va en trouver, c'est quatre. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais enfin, il va suivre les traces de son père. Mais regardez surtout le verset 3, le verset 4. Là, il y a la bénédiction. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond, te multiplie, afin que tu deviennes multitude de peuples, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham. Est-ce que vous ne sentez pas la différence ? Alors je vous pose cette question. Où donc est la vraie bénédiction de Dieu ? Est-elle dans Genèse 27 ou dans Genèse 28 ? Elle est où cette bénédiction d'Abraham ? Elle est où cette bénédiction qui repose sur les patriarches ? Est-elle donnée dans Genèse 27 ou est-elle donnée dans Genèse 28 ? Dieu n'aurait pas permis que Jacob s'empare par la force et le stratagème et le mensonge de sa bénédiction sainte et pure. Mais Jacob était l'élu de Dieu. Et il a reçu par grâce. Car voyez-vous, on ne s'empare pas de l'héritage de Dieu, des promesses de Dieu. Mais l'Épître aux Hébreux dit au sujet d'Abraham qu'il a hérité les promesses de Dieu. Alors Isaac s'était réveillé de sa torpeur spirituelle. Par cette violente émotion, il s'était sorti de la domination de ses sens. Il a pu enfin bénir son fils Jacob tel que Dieu voulait qu'il soit béni. Mais je voudrais vous dire aussi que cet instant-là marque la fin de la carrière spirituelle d'Isaac. Parce qu'après cela, c'est l'histoire de Jacob qui nous est rapportée. Pour moi, Isaac a mis fin prématurément à sa course avec Dieu. Parce qu'il s'est laissé dominer par ses sens un jour. En conclusion, je voudrais dire, frères et sœurs d'un certain âge au milieu de nous, courez jusqu'au bout animé du souffle de Dieu. Même lorsque le corps nous dit « je fatigue », nous rappelons que Paul nous a dit que l'être intérieur se renouvelle. Alléluia. Ne jamais dire « c'est fini » comme Isaac. Ne jamais dire « c'est fini » comme Élie, « je suis le dernier, il n'y en a pas d'autre ». Mais de continuer jusqu'au bout, par la foi. Et je voudrais dire aussi aux plus jeunes au milieu de nous, ce que Dieu t'a promis, il ne permettra pas que tu l'obtiennes par des mensonges, par des stratagèmes. Mais Dieu a une véritable bénédiction pour toi, il te l'accordera. Et je veux vous dire aussi à tous, je finis par cette référence encore à Isaac, ne vous laissez pas emporter par vos sens, par votre ressenti. On ne ressent pas l'esprit. Mais on marche par la foi. Nous allons incliner nos fronts et puis nous allons prendre un temps de prière. Seigneur, mon Dieu, mon Père, à travers l'exemple d'Isaac, nous voulons nous laisser interpeller quant à la manière dont nous gérons nos propres sentiments, nos propres ressentis. Seigneur, ton esprit n'est pas dans nos sens. Tes paroles, ta volonté ne viennent pas de ce que nous entendons, de ce que nous voyons, de ce qui monte de nos cœurs, mais de ce qui vient de ton cœur. Je te prie, Seigneur, de nous apprendre à faire la différence. Nous ne voulons pas être des gens influencés par les sens, par ce que nous ressentons, mais nous voulons marcher par la foi. Il y a là une grande différence, une très grande différence. Seigneur, je veux te prier peut-être pour certains au milieu de nous qui se retrouvent dans la situation d'Isaac. Non pas simplement par rapport à l'âge, mais peut-être certains qui réalisent qu'ils se sont laissés déborder par leurs sens, par ce qu'ils ont vu, par ce qu'ils auraient entendu, par ce qu'ils auraient ressenti. Et à cause de cela, on cédait à des actes insensés qui ont eu des répercussions, peut-être dans leur travail, encore plus dans leur famille, et peut-être même dans leur vie spirituelle avec toi. Seigneur, tu as réveillé Isaac, et je crois que tu es capable de nous réveiller, pour que nous ne laissions pas nos vies être dominées par nos sens, mais que nous soyons des gens conduits par l'Esprit. Seigneur, que ta grâce nous accompagne, afin que nous ne soyons pas des hommes charnels, mais que nous soyons véritablement des hommes et des femmes de l'Esprit, marchant par la foi. Peut-être que je voudrais prendre un temps maintenant d'appel plus particulièrement. Parce que certains se sont peut-être retrouvés à un degré ou à un autre dans la situation d'Isaac. Oh, vous n'avez pas dit « je vais mourir ». Mais vous vous êtes laissé influencer, trop influencer par vos sens. Encore une fois, parce que vous avez entendu, parce que vous avez ressenti, par les choses que vous avez goûtées ou autres. Et ces sens, ces sensations ont pris le pas sur votre communion spirituelle et vous ont amené dans une certaine situation à réagir non pas avec l'esprit, mais avec la chair. Et peut-être des dégâts ont été occasionnés autour de vous. Ça a peut-être produit des ruptures, de la jalousie, de la haine, de la colère. Vous avez essayé de maquiller cela sous une apparence de vernis chrétien. Mais vous savez qu'au fond de votre cœur, vous étiez animé par vos propres sens. Et aujourd'hui, vous pleurez sur certaines situations. Vous dites, Seigneur, mais comment faire? Comment faire? Vous avez besoin que Dieu revienne dans les affaires de votre vie. Vous avez géré vos affaires de votre vie par les sens et vous avez maintenant besoin que l'Esprit de Dieu revienne dans votre vie pour rétablir la situation. Il a fallu des années et des années pour que la situation soit rétablie entre les deux frangins, entre Jacob et Ésaü, mais Dieu a permis qu'ils se réconcilient. Les œuvres des sens et les œuvres de la chair sont destructrices. Mais l'Esprit de Dieu est celui qui rétablit et qui guérit. Et si quelqu'un d'entre nous, parmi nous, sent que le Seigneur parle à son cœur sur ce sujet, alors je voudrais prendre un temps pour prier pour lui, de prier pour elle. Comme ce sont des choses aussi qui sont très personnelles, très privées, je voudrais vraiment demander à chacun de faire un effort de recueillement, de fermer nos yeux tout simplement. Permettre à ceux qui sont dans ce besoin de pouvoir s'approcher du Seigneur, de lever leurs mains tout simplement, et de dire « Seigneur, vois ma situation, je me suis emporté, je me suis laissé déborder, mes sens ont pris le dessus, je croyais être dans tes plans, je croyais être conduit par l'Esprit, mais j'étais conduit par mes sens, par ma chair. Maintenant, Seigneur, fais grâce. » Voilà des mains qui se lèvent. Alléluia, d'autres le font encore. Jeunes ou moins jeunes, nous pouvons tous être emportés par ces sens. Seigneur, alléluia. Oh, il y a eu Genèse 27, c'est vrai, mais il y a Genèse 28, mon Dieu. Une page est tournée. Quelque chose de nouveau se crée, animé de l'Esprit de Dieu. Seigneur, tu connais les situations, peut-être familiales, qui sont là, elles sont douloureuses. Comme était douloureuse la situation de la famille d'Isaac. Des paroles, des réactions, des décisions, des choix dans lesquels nous nous sommes laissés emporter avec tant de répercussions. Nous ne savons pas comment gérer cela. Peut-être certains d'entre mes frères et sœurs ont connu cette violente émotion. Qu'Isaac a connu un jour, ils ont, Ils ont compris. Saisis par l'Esprit de Dieu, ils ont compris ce dans quoi leur chair les avait conduits. Mais tu es un Dieu de restauration. Tu n'es pas un Dieu qui abandonne. Et je crois que ton esprit est capable de renouveler. Seigneur, fais souffler ton esprit dans ces affaires-là. Dans ces affaires de famille, dans ces affaires, Seigneur mon Dieu, de sentiments. Dans ces affaires peut-être de travail, de décisions matérielles. Oh, nous avons besoin de toi. Trop souvent, notre chair l'emporte. Nos sens l'emportent. Mais Seigneur, nous voulons apprendre à faire la différence entre ce qui est les sens et ce qui est de l'esprit. Guéris ces vies. Apporte, Seigneur, ta consolation. Apporte ta guérison, mon Dieu. Montre comment tu veux maintenant t'emparer de ces choses pour apporter ta grâce. Tu l'as fait pour la famille d'Isaac. Fais-le, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.